11h, 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1. Ce matin, elle s'est levée à 8h selon son réveil et 6h selon son bébé. Celle qui manifeste toujours sa joie, même quand elle est cassée, Christine Béroux. Sa tête est comme le calendrier de l'Avent d'un enfant impatient. Il y a beaucoup trop de cases vides. Ben H est avec nous.
Oh la violence. Bonjour Anne Romanoff, content de vous retrouver. Bonjour à tous.
Elle a fêté ses 40 ans tout le week-end. On ne lui a pas décerné le ballon d'or, mais bien le ballon de rouge. La championne du monde du mal au crâne, Léa Landau.
Bonjour. Je suis vieille.
Il ne votera pas Anne Hidalgo, prochaine municipale. Il lui reproche d'avoir piétonisé la place de l'Étoile sans prévenir personne. Mickaël qui regarde.
Elle aurait dû m'appeler. Bonjour, bonjour.
Et celle qui a agi comme une aspirine en ce lundi de gueule de bois après ce week-end un peu trop mouvementé, l'effervescente Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Ben H était à Paris lors des manifestations des Gilets jaunes. Il nous racontera. Ouais. À 11h30, nous recevrons Bernard Werber pour son encyclopédie du savoir relatif absolu et son roman La boîte de Pandore, paru aux éditions Albin Michel. Et à partir de 11h50, ce sera Louis Pertignat qui sera notre invité pour son nouvel album Origine. Mickaël Quiroga évoquera son parcours et Léa Landau lui a préparé une interview spéciale.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Il y a un mois, des chefs d'État du monde entier se tenaient devant la tombe du soldat inconnu, main dans la main, sur l'Arc de Triomphe pour célébrer la paix. Samedi, l'Arc de Triomphe a été tagué, des voitures incendiées, des commerces vandalisés, une grille des jardins du Tuileries arrachée. Samedi, à Paris, si j'ai bien compris, il y avait des gilets jaunes pacifistes qui ont manifesté leur colère sans rien casser, ce qu'on appelle les jaunes poussins. Il y avait les gilets jaunes modérés qui condamnent ceux qui ont cassé, ce qu'on appelle les jaunes pastels. Il y a le gilet jaune qui se met à casser parce qu'il est exalté par la situation, les jaunes moutardes. Il y a les casseurs qui se font passer pour des gilets jaunes pour le plaisir de casser, les jaunes bananes. Il y a le parisien curieux qui est sorti pour voir ce qui se passe. Il y a le parisien furieux qui attend que ça se tasse. Et il y a les touristes qui se cassent. Il y en a qui ont dit que c'était pas facile de différencier un gilet jaune d'un casseur. Enfin, moi, je dis qu'un mec en gilet jaune avec un casque sur la tête, un foulard sur le visage et un masque n'envisage pas a priori de manifester pacifiquement. Alors les gilets jaunes ont réagi d'une façon un peu brutale, le jaune est une couleur primaire, mais les gilets jaunes ont un point commun, ils se sont trompés, et c'est pas par hasard, c'est dans le langage des fleurs, le jaune c'est la couleur des cocus. Dans les beaux quartiers, les habitants ont été choqués. Ah mais c'est sympa ces gilets jaunes, Macron, démission, ça lui apprendra à avoir éliminé injustement Fillon, mais merde, mais qu'est-ce qu'il faut, avenue Paul Doumer, Pierre-Édouard, viens voir. Ils ont cassé le pare-brise de la Bentley, ah, salaud de pauvre. Dans les beaux quartiers, les commerçants vandalisés sont découragés. Bah d'accord, ils sont en colère, mais enfin pourquoi qu'ils ont cassé ma vitrine, hein? Moi j'y suis pour rien. Faut que je remplisse les papiers des assurances, que je trouve un vitrier, ils cassent en 30 secondes, mais nous ça nous met des heures à tout remettre en état sans compter le manque à gagner. Les gilets jaunes demandent une augmentation de leur pouvoir d'achat, mais quand tu touches 600 ou 700 euros par mois, est-ce qu'on appelle encore ça le pouvoir d'achat ou le pouvoir de vivre? En même temps, saccager un monument entretenu par nos impôts pour se plaindre de l'augmentation des impôts, ouais, c'est comme s'inoculer la grippe pour prouver qu'il fait froid. Alors Emmanuel Macron a choisi de ne pas s'exprimer pour l'instant. Après des heures de réflexion, ses conseillers ont dû lui dire « Tant que vous ne parlez pas, vous ne risquez pas de dire des conneries. » Alors Édouard Philippe a été chargé par Emmanuel Macron de trouver des représentants des Gilets jaunes pour négocier. Édouard Philippe, c'est lui qu'on envoie toujours faire le sale boulot, la tâche ingrate. En fait, ce n'est pas son Premier ministre, c'est son stagiaire. Puis c'est compliqué de trouver des Gilets jaunes pour discuter parce qu'il y a le Gilet jaune qui ne veut pas aller discuter avec Édouard Philippe parce qu'il pense que ça ne sert à rien. Il y a le Gilet jaune qui veut bien aller discuter mais dont les autres disent qu'il ne représente pas les Gilets jaunes. Il y a le gilet jaune qui veut bien parler à la télé mais qui veut pas aller discuter. Il y a le gilet jaune qui veut discuter seulement s'il est filmé. Et il y a le gilet jaune qui veut bien discuter avec le Premier ministre seulement s'il n'est pas filmé. Et il y a le gilet jaune qui est juste en panne sur la Nationale qui se fait interviewer par BFM TV pendant qu'il change sa roue. Il y a Emmanuel Macron que beaucoup ne peuvent plus voir en peinture. Entre Emmanuel Macron qui ne veut rien entendre et les gilets jaunes qui ne veulent pas lui parler, faut pas s'étonner qu'on parle de dialogue de sourds. Sur le terrain, on a donc des gilets jaunes déterminés, des forces de l'ordre crevées, des commerçants désolés, des hommes politiques largués et des casseurs jamais fatigués. Ce week-end, on a fait un tag devant la tombe du soldat inconnu, mais la véritable inconnue désormais, c'est comment tout ça va finir.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Alors, il y a eu des violences dans Paris samedi lors des manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que vous étiez sur place? Vous avez eu peur?
Ah ben moi, oui, j'ai eu très peur. C'est quand je les ai vus dévaliser les boutiques de vêtements de luxe.
Et alors?
Eh ben alors, j'avais raison d'avoir peur. Le temps que j'arrive, il n'y avait plus ma taille.
Léa?
Bah moi, samedi, j'étais en gilet gris, 100% coton, triple épaisseur, avec chaussettes molletonnées, parce que je suis restée à la maison. Si j'étais sortie, j'aurais été une casseur de plus. Bah ouais, parce qu'il y avait plein de gens dans les rues à qui j'avais envie de casser le délire. D'ailleurs, si maintenant ils pouvaient casser leur tirelire pour rembourser tous les dégâts qu'ils ont causés, ce serait pas trop mal.
Oh là, la réac.
Ouais.
T'as vu? Vénère.
Ouais.
Vénère.
Ah, ça me rend dingue.
Ouais, je vois
ça. Ah, ça me rend dingue. Attends que je me chauffe et que je sorte dans la rue, moi, tu vas voir. Attends.
Ben H.
Non, moi j'ai pas eu peur du tout. J'ai même profité du bordel ambiant pour faire une belle action quand j'ai vu qu'on pouvait écrire sur l'Arc de Triomphe.
Non, vous avez pas écrit sur l'Arc de Triomphe.
Non, enfin si, j'ai juste mis le numéro de Léa. 40 ans, toujours célibataire. Au grand mot, les grands remèdes.
Les amis, qu'on peut compter.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Hier, Emmanuel Macron et Christophe Castaner se sont rendus au pied de l'Arc de Triomphe pour constater les dégâts des manifestations de samedi et se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Vu leur tronche, je crois qu'ils venaient plutôt se recueillir sur la tombe de leur popularité inconnue.
De nombreuses vitrines et commerces ont été vandalisés samedi lors des manifestations des Gilets jaunes. Bon, Anne, je vous pose ma démission, j'ai trouvé ma future reconversion.
Ah bon, vous allez faire quoi ?
Vitrier. En une manif, il y a de quoi se faire l'équivalent d'un salaire mensuel, ça vaut le coup.
Samedi, c'était donc la manif des Gilets jaunes dans toute la France. Difficile d'avoir les vrais chiffres. 136 000 personnes, selon le ministre de l'Intérieur. 136 personnes, selon Emmanuel Macron. 136 millions de personnes, selon Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.
Clément Rémiens remporte Danse avec les stars, ce qui fait de lui une star. Voilà, maintenant il peut légitimement participer à l'émission.
Dernier thé ou café pour Catherine Sellac. Bravo à elle de vivre ça sereinement. Moi, à sa place, je serais en train de préparer ma nouvelle émission. Vin rouge ou vin blanc.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Londo, Christine Bérou, Mickaël Quiroga, Ben H. Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour d'une semaine au ski en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ». Ça fait du bien sur Europe 1 ce lundi matin avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Christine Bérou, Ben H. Est-ce que votre fille a mieux dormi ce week-end, Christine Bérou?
Alors tout va beaucoup mieux, elle ne dort toujours pas, mais ça y est, maintenant je suis habituée. Le corps s'adapte, hein, la nature est très
c'est
bien
sûr.
Faite.
Ouais, voilà.
Et puis Christine Bérou qui a maigri, hein, vraiment.
C'est flagrant.
Ouais, vraiment.
Ça se voit bien, à la radio ça se voit bien.
Non mais tu es magnifique.
Mais merci.
Non mais c'est vrai. Bah
c'est oui. Le noir qui fait ça, non?
C'est pour ça que je m'habille toujours en noir en ce moment. C'est le moment de notre jeu.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué le week-end grâce à Europe 1. Écoutez bien ce qu'on vous fait gagner. Tentez de gagner un séjour d'une semaine de ski pour 4 à Risoul 1850, station d'altitude des Alpes du Sud. Vous skierez sur les 116 pistes du magnifique domaine de la Forêt Blanche, de 1850 jusqu'à 2750 mètres. Et si vous êtes surfeur, sur le snowpark Wow Land Risoul. Wouh, Land Risoul. Risoul 1850, c'est aussi une station familiale avec plein d'activités pour les enfants. Allez voir les webcams sur risoul.com, la plus intime des grandes stations. Ouais. Wow. On joue d'abord avec Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour Anne, comment allez-vous?
Bah, très bien, je vous remercie.
Et nous, on sent le gilet jaune ou
quoi? Non, je suis un peu loin de Paris, mais...
Vous êtes où?
On soutient malgré tout, même s'il y a plein de choses qui nous dérangent dans ce qui se passe.
Alors Catherine, vous êtes sans emploi, vous habitez au Canet?
Oui, enfin sans emploi, c'est parce que j'ai jamais eu envie de travailler.
Mais elle n'a jamais eu travaillé. C'est-à-dire vous êtes femme au foyer avec un homme riche?
Oui. Ah bah bah. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais eu envie de vraiment de travailler.
C'est-à-dire, nous on n'a pas toujours envie, mais on a besoin.
Bah ouais, c'est ça.
Et là, il y a le fils.
Oui, oui, mais je sais bien. J'aurais certainement dû.
Il faut avoir les moyens de ne pas travailler, c'est ça.
Il fait quoi votre époux?
Alors maintenant, il est à la retraite.
Ah ouais, la retraite.
Il était avocat.
Ah bah c'est ça.
Bah oui.
avocat de quoi?
D'affaires.
Ah bah oui.
Ah ouais, voilà, oui, d'accord, oui.
Ah bah oui.
Non, mais il a une femme qui dépense beaucoup, donc c'est pas bien.
Alors Catherine, vous avez une passion, ce sont les animaux?
Ah
oui.
Bonjour Catherine. Alors,
vous avez deux chiens, quatre chats et deux poules.
Wow.
Oui, mais si je pouvais, j'en aurais bien plus.
Comment ils s'appellent vos chiens, vos chats?
Mais ça t'intéresse vraiment?
Oui.
Il y en a là.
Oui.
Nala, que j'ai ramenée de Thaïlande.
Oh, bravo.
Lors d'un séjour, je me suis débrouillée pour la ramener, et heureusement...
Il était tout seul dans l'hôtel, pauvre petit chien.
Elle n'a que 6 ans, et elle est devenue aveugle à son retour, quelques temps après, parce qu'elle a eu une maladie avec les tiques. Donc, heureusement que j'ai ramené.
Pourquoi t'as demandé des nouvelles de ces chats?
Non, mais attendez, on va pas faire l'émission.
On dirait ma mère.
Catherine, c'est passionnant, mais on va pas faire l'émission là-dessus, vous voyez.
Mais c'est toi qui poses la question.
Mais c'était pour savoir les prénoms vite fait, mais pas que ça dure 3 heures.
C'est quoi.
Quoi? Tagada,
non, on va pas faire.
Tagada. Qu'elle a ramené aussi de Thaïlande, qui avant s'appelait le Siam, qui était un royaume extraordinaire.
Non
Catherine, il faut répondre vite, là, voyez.
Allez, alors.
Vous écoutez l'émission tous les jours, Catherine?
Ah oui, tant que je suis à la maison, oui, j'écoute, j'aime beaucoup.
Ah bah c'est gentil.
Voilà, j'aime bien les émissions d'Europe, hein, c'est vrai.
Ah bah on est très contents.
Voilà. Elle m'a fait penser. Très agréable.
C'est quoi le prénom de votre mari?
Nala.
Alain.
Alain et Catherine. On est prêts à jouer?
Oui.
Concentrez-vous, vous jouez avec qui d'ailleurs?
Alors. Avec Léa.
Ah bon? Vous savez que Léa a eu 40 ans?
Ouais, la dépression, chance, Catherine.
Hein. Comment?
Ah non, je trouve que c'est là où on est le mieux.
Ah bon?
Ah oui?
Mais je ramollis. 40 ans, c'est un âge merveilleux. Je trouve qu'on est belle, on sait beaucoup mieux ce qu'on veut, on
ça,
est plus
vrai.
Sûr de soi. Je trouve que c'est... Alors profitez-en, hein.
Bon, alors d'accord. Merci, ça remonte le moral.
Non, c'est vrai, bon. 40 ans, c'est un très bel âge pour les femmes.
Bon, Catherine, on se concentre.
Alors,
les personnalités qui ont marqué le week-end, attention, top chrono.
L'ancienne présentatrice du JT de 20h.
Claire Chazal.
Oui, le président d'En Marche, et tout le monde veut sa démission actuellement.
Emmanuel Macron.
Non, l'autre, celui qui travaille pour lui. Bon, c'est pas grave.
Édouard Philippe.
Non.
C'est le ministre de l'Intérieur.
Oui, Kerstener, elle l'a dit. La Miss France qui était dans Danse avec les Stars.
Ah, je sais pas.
La fille de Johnny Hallyday.
Passé, je m'en rappelle.
Le réalisateur du Loup de Wall Street, américain, les infiltrés, tout ça. Bon, le chanteur qui se maquille comme une femme, un chanteur anglais, pop.
Prince,
bah
non,
oh là 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 là,
Catherine.
Bon,
ça
c'est... Ah bah oui, mais vous avez dit l'actualité de ce week-end, là, il n'y avait pas grand-chose.
Mais oui, il fallait faire un quiz sur les chats.
Bah, deux...
Non, pas du tout, j'avais plein d'autres choses, moi.
Deux bonnes réponses, c'est que Christophe Castaner n'est pas du tout président d'En Marche, Léa Landau, il est ministre de l'Intérieur.
Ah, purée.
Militaire. Maintenant, bah il a été, mais
oui,
maintenant il
est
minu. Là-bas, il ne l'est plus. C'était Iris Mittener qui a failli gagner Danse avec les Stars, Boy George qui se maquille, et Laura Smet qui a épousé son compagnon ce week-end. La fille de Johnny Hallyday. Bon,
Boy George, non, il n'était plus du tout dans mon cerveau, Boy George. Il était loin.
Bon, bah écoutez, Catherine, je pense que c'est perdu, mais on va voir comment se débrouille Rémi. Attendez de voir. Rémi, bonjour Rémi.
Bonjour Anne, bonjour équipe.
Salut
Rémi, vous avez...
Ah oui, je suis content quand même.
Il va gagner.
Rémi, vous avez 35 ans, vous êtes comptable à Montrouge?
Oui, c'est un emploi fictif dans la comptabilité, effectivement.
Vous faites quoi? J'ai pas compris.
Un emploi fictif.
C'est un emploi fictif, clairement. C'est...
Pourquoi un emploi fictif?
Parce qu'il faut rien.
Je déteste les chiffres.
Comment?
Je suis comptable et je déteste les chiffres.
Ah bon?
Ah oui, vraiment.
Et vous l'avez pas dit à votre employeur?
Ben non, il me paye, je vais quand même pas lui dire.
Enfin, quand même, Rémi, pourtant, pour être comptable, il faut au moins 7-8 ans d'études, vous en êtes pas rendu compte avant?
Non. Si, mais bon, je me suis dit, bon, sur un malentendu, ça peut... Et puis voilà.
Ah ouais. Et vous êtes comptable dans quel domaine, Rémi?
Dans la banque.
Ah.
Et vous êtes marié, Rémi?
Non, célibataire.
Ah bon? Non, parce que je me suis dit, dans 8 ans, il va se rendre compte qu'en fait, il l'aime pas.
C'est quoi ça, j'ai dit, comme ça, moi.
Vous adorez les voyages, vous avez été 8 fois à Las Vegas.
Ouais.
Est-ce que vous êtes allé voir David Copperfield?
Non, je suis allé voir un autre qui était plus glauque. Et David Copperfield est un petit peu old school pour moi.
Ouais.
Voilà.
Et pourquoi vous avez...
Je préfère Chris Angel. Voilà.
Ah. Pourquoi vous allez à Las Vegas tout le temps? Vous jouez?
Ouais, parce que j'aime le jeu, sinon j'irai pas.
Et vous perdez de l'argent?
Vous prenez pas dans la caisse, j'espère.
Non, du tout.
Enfin, vous n'allez pas nous dire oui en même temps à la radio.
Pourquoi vous...
pas de déontologie.
Pourquoi vous voulez qu'ils prennent dans la caisse? C'est le comptable de la mairie de Levallois, il n'y a pas de...
C'est mon père, je ne
peux
pas le dire.
Vous adorez la cuisine, Rémi?
Oui.
Et vous faites plein de gâteaux?
Bah, j'essaye, voilà. Je fais goûter à tout mon entourage et voilà. Alors, il y a des fois, ça marche bien, et des fois, c'est pas terrible, mais bon, généralement, ils sont contents, donc voilà.
C'est quoi le dernier gâteau que vous avez fait?
Eh bah, ben, j'ai fait une tarte citron meringuée.
Mmh.
Voilà. et qui n'était pas forcément très belle, mais elle était bonne. Alors,
ouais. C'est l'essentiel.
Il y a des nanas sur qui on dit ça aussi.
Vous jouez avec qui, Rémi ?
Je suis sûr de vous faire gagner.
Alors, je voulais jouer avec Léa, mais je vais jouer avec Ben.
Ah. Avec plaisir.
Bon, et il y a Mickaël qui regarde, vient de dire je suis sûr de vous faire gagner.
Bah, en même temps, avec moi, deux perso, réponses, c'est pas difficile. Elle a eu que deux réponses, Catherine. Enfin,
allez, vous êtes prêts ? Top chrono.
Allez, prêt.
C'est la maire de Paris.
Anne Hidalgo.
Il présente les dimanches soirs de France 2. Depuis toujours.
De la housse ? Ah, bah non. Drucker.
Oui, c'est ça. C'est chanteuse pop, la plus grande chanteuse pop actuelle.
Elle est avec Jay-Z.
C'est pas. Ça, elle avec. Non, on passe ? Ok. Il a gagné Danse avec les stars.
Clément Rémien.
Oui, c'est le président du Front de Gauche.
Front de Gauche, Mélenchon.
Oui, elle chantait Baby One More Time il y a 20 ans, et puis depuis elle fait
une belle...
Ouais. Elle présentait le dernier Thé ou Café dimanche.
Samedi.
Ouais. Bah écoutez, la grande chanteuse pop, vous la voulez pas ?
Bravo !
Vous avez quasiment tout.
Si, bonne réponse ! C'était Beyoncé qui était la tête d'affiche d'un concert au stade de Johannesburg pour le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Bravo Rémi, grâce à Repin vous gagnez.
Merci Ben, hein, parce que franchement super.
Mais je t'en prie Rémi.
Vous avez gagné un séjour d'une... Arrêtez de le tutoyer, enfin on respecte les auditeurs.
Je vous en prie monsieur.
Vous avez gagné un séjour d'une semaine de ski pour 4 à Rizoul, 1150 stations d'altitude des Alpes-Maritimes. Vous skierez sur les 116 pistes du Manif, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire les 116, hein, du domaine de la Forêt Blanche. Et si vous êtes surfeur sur le snowpark Wahoo Land Rizoul, Rizoul 1150, c'est aussi une station familiale avec plein d'activités pour les enfants. Allez voir les webcams sur rizoul.com, la plus intime des grandes stations. Bravo Rémi.
Eh ben, c'est génial, je suis jamais allé au ski, donc je penserai à vous. Merci. Hein. Oh.
Vous allez partir avec qui alors ?
Eh ben, je vais partir avec des amis là, et puis voilà, ça va nous faire une belle petite semaine.
Bah oui, ça va être super ça. Catherine, on est désolée ?
Moi aussi. Bon, ben... Mais je suis contente pour Rémi, hein, parce que
merci,
voilà, c'est un beau cadeau et je pense que. En plus, il n'a jamais fait de ski, il va se régaler.
Bah oui, parce que vous, Catherine, vous y allez tous les ans, non ?
Oh, bah non, moi, je ne fais pas de ski. Moi, j'adore l'après-ski.
Ah,
les bons petits thés. Voilà.
Mais
c'est pour aller avec ma fille, ma petite fille. Voilà, mais c'est pas grave. Je suis très contente pour lui.
Bon, Catherine, on vous propose de rejouer avec nous d'ici un mois ?
Oui, avec plaisir.
Et comme
avec
ça, vous nous direz comment s'appellent les autres animaux dont on n'a pas parlé.
Oui,
ça m'intéresse.
Sagada, Coyote et Diego.
D'accord.
Ah, c'est... Je ne savais pas à l'époque. Donc, elle s'appelle Diego.
Ça marche. Bon.
Voilà.
Rémi, on vous embrasse.
Merci, gros bisous.
Vous nous écoutez tous les jours en faisant de la comptabilité ?
Eh bien, je vous écoute en podcast surtout, et avec la nouvelle appli Europe 1 qui est super. Voilà.
Bon, bah merci Rémi, merci, on vous embrasse tous les deux. Profitez bien de ce séjour au ski.
Bon voyage.
Au revoir, merci.
Pour jouer avec nous, laissez un message et vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Bérou, Léa Landau, Mickaël Quiroga. Et Ben H qui va nous raconter ce qu'il a vu samedi à Paris pendant la manifestation des Gilets jaunes.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ce soir aura lieu la cérémonie des remises du Ballon d'Or 2018. Un pronostic, si vous deviez remettre un trophée d'or à quelqu'un, ce serait pour qui et pourquoi, Mickaël ?
Ah bah moi, le Ballon d'Or 2018, franchement, je le donne à Olivier Giroud.
À Olivier Giroud, pourquoi ?
Eh ben quoi, je suis là pour faire des blagues, non ?
Christine, le Ballon d'Or ?
Le Ballon d'Or, je sais pas, mais mon conjoint, il me rappelle tout le temps que le silence est d'or. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça à moi.
Ben H ?
Bah techniquement, c'est soit Varane, soit Griezmann pour une question de palmarès, hein, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, mais au final, je pense que ce sera le Croate Modric. Et surtout, n'hésitez surtout pas à m'interrompre si je vous ennuie.
Eh ben, je vous interromps. Léa ?
Ben, moi, j'aurais voulu récompenser Apple, mais au prix de l'iPhone, des Mac et des tablettes, ils l'ont déjà, leur prix. C'est deux couilles en or.
Ben H, vous avez eu des problèmes samedi ?
Oui Anne, oui. Samedi, je me baladais dans Paris et je suis tombé nez à nez avec l'enfer. C'était le chaos, j'ai même cru que j'allais y passer.
Vous êtes tombé sur des gilets jaunes ?
Mais pire que ça, je suis tombé sur mon ex en gilet jaune. cumul de haine. À la base, un gilet jaune, c'est quelqu'un qui est en colère contre l'État et qui veut se friter avec Macron. Une ex en gilet jaune, c'est quelqu'un en colère contre l'État. Mais à ses yeux, toi, tu es encore pire que Macron. Et avec cette fille, je me suis comporté comme Macron avec la France. Par exemple, je lui ai proposé un jour de traverser la rue, pas pour chercher du travail, mais pour retourner chez sa mère. Comme Macron aussi, elle arrêtait pas de me parler de ses problèmes à longueur de journée. Et elle pensait que je ne la comprenais pas, alors que non. Comme Macron, c'est pas que je la comprenais pas, c'est que j'en avais strictement rien à foutre. Comme Macron, je l'ai traité même une fois de gauloise réfractaire. Oui, de gauloise réfractaire. C'est quand même dingue de bâtir ma Gaule et finalement de pas vouloir en jouir.
Oh
bref, j'avais aucune envie de la revoir. On est tombé sur les gilets jaunes un peu par hasard avec un ami à moi, un pote hyper costaud, je le précise parce que ça aura son importance. On s'est arrêté sur un rond-point pour demander à des gilets jaunes où on pouvait trouver une station-service la plus proche. Ils m'ont demandé si c'était une blague. J'ai répondu bah que non, je ne travaille pas le week-end. Ça les a pas fait rire. Hein. Ils nous ont bloqués, ils sont partis chercher leur chef, pardon. Alors le chef, 1m85, 100 kilos, une tête de tueur d'enfant. J'ai vite compris qu'à l'école, il était beaucoup plus assidu au cours de PS qu'au cours de français. Il a commencé à me parler. Alors j'essaye malgré tout d'échanger avec lui en mettant le moins de mots possible dans mes phrases et en faisant des grands gestes. Mais peu importe les négociations, peu importe même ma compréhension, une règle de vie, hein, quand un homme de 100 kilos parle, l'homme de 50 kilos écoute. L'homme de 50 kilos l'écoute, surtout si le mec de 100 kilos, c'est en plus le nouveau mec de ton ex. Elle m'a tout de suite reconnu. Bref, une fois que son colosse m'avait identifié comme le fameux connard dont elle parlait depuis des mois, je me suis retrouvé face à deux choix. Ne pas mettre un gilet jaune et me faire péter la gueule, ou bien mettre un gilet jaune et me faire péter la gueule. Du coup, j'ai mis un gilet jaune et je suis parti. Parce que comme je vous l'ai dit au tout début, l'ami qui était avec moi dans la voiture était vraiment super, super costaud.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Christine Mérou, Mickaël Quiroga, Léa Londo et notre invité Bernard Werber qui viendra nous parler de son encyclopédie du savoir relatif absolu et de son roman La boîte de Pandore paru aux éditions Albin Michel.
Anne Romanoff sur Europe 1.
C'est du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Christine Bérou et notre invité Bernard Werber venu nous parler de son livre La boîte de Pandore qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Alors dans ce livre, c'est beaucoup des expériences d'hypnose, de vie antérieure, c'est ça ?
Oui, c'est un héros qui vient à un spectacle, il s'appelle René Toledano, il vient à un spectacle de théâtre hypnose. Et il monte sur scène et là il fait l'expérience et il se retrouve d'un coup plongé comme une machine à remonter le temps dans une de ses vies antérieures et il s'aperçoit que ça marche à sa grande surprise. Et il va explorer comme ça toutes ses vies antérieures jusqu'à découvrir sa plus ancienne vie antérieure, une vie d'Atlante dans laquelle il espère pouvoir agir, à savoir avertir cet Atlante qui va avoir
le déluge.
C'est
quoi Atlante ?
L'Atlantide.
Oh, vous nous faites là Atlante comme si c'était super connu.
Bah, c'est super connu en fait.
Bah, nous on savait.
Mais c'est surtout le principe que l'hypnose, et surtout l'hypnose régressive, est un moyen de mieux se connaître soi-même et de découvrir toutes les vies qu'on a cachées en nous. Et
vous-même, vous l'avez fait, Bernard Werber ? Vous avez exploré vos vies antérieures ?
Oui.
Et alors ?
D'ailleurs, j'en ai découvert 5.
Ouais.
La toute dernière, j'étais herboriste dans les Andes.
Vous avez bien une tête d'herboriste d'ailleurs.
ce qui est étonnant quand on fait une régression, ouais, c'est qu'il n'y a pas écrit l'année et le lieu.
Ah ouais.
Donc on débarque, on est devant le décor.
Vous êtes,
on ne sait pas où on est, on ne sait pas son propre nom. Et on découvre progressivement le monde. En fait, c'est un peu comme un rêve. En fait, c'est un
rêve éveillé, en fait.
Si ce n'est qu'il y a beaucoup de détails. Et après, une fois que j'ai terminé de faire une régression, je vais vérifier
si cette personne a vraiment existé. Parce
voilà,
que...
si la personne a existé et si les détails correspondent aux vrais détails historiques que je ne connais pas.
Ça correspondait ?
Oui, une de mes vies les plus étonnantes où ça correspondait vraiment bien, j'étais archer anglais durant la guerre de 100 ans. Et je peux vous dire que c'est un boulot, ça ressemble à figurant dans un film. C'est-à-dire que vous attendez longtemps, il ne se passe rien, vous ne voyez rien du tout. Et à la fin, vous pensez juste toucher votre bourse et repartir. Ce n'est pas comme un match de foot, une guerre, enfin, de ce que j'en ai vu dans les vies antérieures. Y a pas
vous avez été dans un harem, dans une vie antérieure aussi ?
Oui.
Vous étiez une fille.
Et je là, peux
vous
dire, c'était juste un rêve. Hein,
non, c'était pas vraiment un rêve. On s'ennuie énormément. Ah, vous n'y allez pas.
Vous étiez une femme dans un harem.
Oui, ah, en fait, oui. J'ai été vendu par mes parents, mais ça se pratiquait beaucoup à l'époque. C'était à peu près, j'ai situé ça vers 300 avant Jésus-Christ.
J'imagine les auditeurs qui sont en train de tomber sur l'émission. Le mec dit, j'étais dans un harem, j'étais archer. Il faut croire aux vies antérieures pour ça, Bernard Ferroir. Vous, ça vous paraît aller de soi parce
alors,
que...
Non, non, je ne suis pas du tout dans la croyance. Je regarde juste, je fais ça, j'obtiens ce rêve hyper précis. Maintenant, je comprends très bien que des gens me disent, ça n'existe pas ou ça ne marche pas. J'allais dire, c'est chacun selon ses... ces intuitions.
Mais vous savez maintenant, qu'il paraît qu'en fait, les vies antérieures qui ressortent dans la vie actuelle, ce sont celles qui, pour lesquelles on est là et on a des choses à régler vis-à-vis de ces vies antérieures-là.
Oui.
Alors qu'est-ce que vous avez à régler, Bernard Werber ?
Non, je pense à, je pars du principe qu'à chaque vie, au moment où on meurt, on fait le bilan de la vie qu'on vient de vivre et on se dit comment faire mieux la prochaine fois. Donc la vie juste avant celle-ci, je me suis dit ce qui serait bien, c'est que je sois écrivain, que je vive en France et que je sois invité à Europe 1 à l'émission d'Anne Romanoff. Tout ça a fait. Été programmé et c'est un souhait.
Est-ce que vous pensez que vous allez vous réincarner dans quelques années pour vous dire tiens, je vais lire le livre de Bernard Werber et vous rappeler de toutes vos vies.
Ça serait génial, oui. Ouais. Mais je crois que c'est la première vie où je laisse une trace aussi. Vous savez, la plupart des vies, moi, vous mourrez, ben... Au bout d'un moment, si vous avez des enfants, ils se rappellent vaguement de vous. Les petits-enfants, c'est une photo ou un dessin ou un nom. Et après, on vous oublie. Et là, c'est la première vie où, en faisant des livres et en ayant justement beaucoup de lecteurs, j'ai l'impression que, quelque part, même si je meurs, les livres vont continuer à vivre. Et ça, c'est vraiment un truc super qui fait que, dans la prochaine vie, je vais réclamer à nouveau à être écrivain et en France.
Et à... pour retrouver vos traces.
Voilà. Bon,
on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Bernard Werber, venu nous parler de son dernier livre, La boîte de Pandore, un roman qui vient de sortir aux éditions Albin Michel.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga, Lando, Christine Béroux et notre invité Bernard Werber. Vous nous parlez de son livre La boîte de Pandore aux éditions Albin Michel. Vous intéressez à tout, Bernard Werber, parce que vous avez appris, vous avez fait du journalisme, vous avez été journaliste pendant 7 ans, journaliste scientifique.
J'ai pas fait que des choses bien, oui.
Non, mais quand vous êtes intéressé par quelque chose, vous y allez à fond. Les fourmis, c'était à fond. Là, les vies antérieures, c'était à fond. Les anges, c'était à fond.
On vit une époque extraordinaire.
Les femmes, c'est à fond.
On a la possibilité d'explorer beaucoup plus d'horizons, de territoires que les vies précédentes. Dans les vies précédentes, souvent, on restait au même endroit, on voyageait pas. On n'avait pas accès aux informations, par exemple, en Occident, on n'avait pas les informations sur l'Orient. Et là, j'ai l'impression que cette vie... Enfin, on a tous les jouets pour pouvoir avoir toutes les connaissances. Alors, en effet, comme vous dites, j'y vais à fond. Et surtout, j'essaie de transmettre ça à travers les livres, c'est-à-dire de donner envie à mes lecteurs d'être curieux aussi. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que vous avez une vie avant cette vie-là?
Oui, je suis sûre, mais je ne l'ai pas encore fait d'aller voir.
C'est
mais
vrai. J'ai peur. Alors, comme j'ai quelqu'un de super, si tu veux. Je sais que tu aimes bien.
Mais moi, j'ai peur que ça me perturbe.
Il ne faut pas aller voir les vies... pénible. Moi, je vois ça presque comme du tourisme. Il faut aller voir les vies sympathiques dans lesquelles il s'est passé des choses sympathiques.
Mais on ne choisit pas, j'imagine, quand on fait une régression.
Si.
Comment ça ?
Ben, moi, je fais visualiser un escalier, puis après, il y a la porte de l'inconscient qui s'ouvre, puis après, il y a un couloir avec les portes. Et là, quand vous êtes devant les portes, vous faites le souhait de la vie que vous voulez voir. En général, je conseille la vie la plus sympathique dans laquelle il s'est passé les trucs les plus agréables. Donc là, vous n'ouvrez pas une porte pour vous retrouver en train d'agoniser dans un hôpital, ni de vous prendre une balle dans la tête dans une bataille. Vous allez vous retrouver au meilleur moment de votre vie la plus sympathique. Mais c'est comme du tourisme. C'est comme si vous alliez voir un petit film sympathique dont vous êtes le héros.
Et qu'est-ce qui nous dit que là, par exemple, j'ai pas une vie pourrie où je me rappelle ma vie précédente à Europe 1 qui était sympathique.
Bernard Werber, il y a aussi ce livre Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc ça, c'est un livre qui reprend toutes vos découvertes scientifiques empiriques, en fait, on peut dire ça.
C'est toutes les petites conneries que j'ai accumulées depuis l'âge de 13 ans, des trucs extraordinaires que les gens ne connaissent pas.
Comme quoi ? Juste une connerie.
Alors, il y a un sujet sur lequel je sais que j'ai l'exclu, c'est la sexualité des punaises d'Élie. Puisque ce sont les mêmes punaises que vous avez dans vos appartements, ben en fait...
On n'a pas de punaises, merci.
Non, si.
Ils ont un sexe perforateur et les femelles naissent avec plusieurs vagins secondaires dans le dos et sur les pattes.
Ah bon
et
en la plus, chance
elles en ont partout.
Et en plus, ils sont partout heures et en même temps, ils sont myopes, donc ils font des grandes orgies. Et c'est un animal qui a une sexualité complètement débridée.
Et la punaise de lit.
Ouais, et c'est pour ça que...
C'est marrant parce que partout heures et myopes, ça veut dire qu'ils couchent avec tout le monde, mais ça pas avec qui.
Non, pour les auditeurs, je précise, on parle des punaises de lit.
Oui, oui,
après avoir parlé des vies antérieures.
Je donne d'ailleurs à la fin la méthode pour le faire soi-même.
Ah, ça, c'est hyper dangereux quand même.
Oui, comment on en revient?
Bah oui, parce que si on reste dans la vie antérieure coincée, qu'on ne revient pas.
C'est code
quantum. Ça dépend si elle est sympathique. Mais et à la fin du livre, je mets quelques pages pour que les gens notent ce qu'ils ont comme souvenir de leur vie antérieure. C'est une manière d'ouvrir, d'ajouter des perspectives, d'ouvrir un peu le champ de vision et de perception.
Bernard Werber, donc, il y a ces deux livres, La boîte de Pandore, le roman qui parle des vies antérieures, Encyclopédie du savoir relatif absolu, tous les 12 éditions Albin Michel. Vos projets, c'est quoi, Bernard Werber? C'est quoi votre...
Là, je fais la suite des chats. Donc j'avais fait Demain les chats, et puis vu que chaque fois que je fais une dédicace, tout le monde me demande la suite, donc je vais faire la suite.
Vous avez combien de chats chez vous, du coup?
Actuellement...
Vous étiez un chat dans une vie antérieure?
J'ai eu longtemps des chats, mais actuellement j'ai un chien. Ah. Et je vais vous dire, la grande différence, c'est que les chiens, ils vous aiment.
Pas les chats.
Non, pas les chats, mais c'est un concept. Je sais pas, vous avez un chat?
Ni l'un ni l'autre.
Non, c'est une expérience assez étrange parce que le chien que j'ai actuellement, il l'aime tellement que ça en devient excessif. C'est-à-dire que c'est un être qui aime tout le monde.
Mais c'était peut-être votre femme dans une vie antérieure.
Non, parce qu'il aime tout le monde. Alors là, c'est un amour universel.
Ah, c'était une punaise de lit.
Mais il n'est pas myope. Europe.
Merci Bernard Werber de passer nous voir. On rappelle vos deux livres, La boîte de Pandore aux éditions Albin Michel et l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Louis Bertignac qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1. Aujourd'hui, nous recevons une légende du rock français, le roi du riff, le prince du kiff, le Keith Richard hexagonal, un guitariste, un chanteur, un producteur. Ce midi, nous avons pris le village de recevoir Monsieur Louis Bertignac.
Merci.
Bonjour Louis Bertignac.
Bonjour.
Louis Bertignac, comment ne pas parler avec vous du seul et unique groupe de rock français de ces 40 dernières années, Téléphone, qui hélas a raccroché. Bon, il y a aussi les Forbans, ça a duré moins longtemps.
Et Indochine.
Il y a beaucoup de...
C'est sympa pour Trust aussi.
Ouais. Bah ouais.
Et après, il y a quand même jamais eu en France un seul groupe de... Enfin, je veux dire quand même, c'était un des plus grands groupes de rock français, Téléphone.
Qu'est-ce que je peux dire? Ouais.
Modestement,
j'ai l'air d'un
oui.
Frimeur si je dis oui. Bon. Non, il y en a eu beaucoup des groupes. Il y en a eu beaucoup avec des bons musiciens, avec des mauvais, de tout.
Le rock, c'est une musique de contestation. En France, on aime bien contester. D'ailleurs, on le voit en ce moment. Vous n'avez pas envie de produire un nouveau groupe à la mode, les Yellow Gillettes? Vous connaissez cette phrase de John Lennon qui, quand on lui demandait ce qu'il pensait du rock français, le comparait au vin anglais?
Ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous lui
répondez? Il n'y a toujours pas de vin en Angleterre. Du rock, il y en a ici.
Quand vous enregistriez avec Téléphone, il y avait les Rolling Stones qui étaient dans les studios et vous avez obtenu l'autorisation de rester toute la nuit pour les regarder.
Mais toutes les nuits.
Toutes les nuits.
C'était un bonheur, ouais. J'ai beaucoup appris.
Qu'est-ce que vous avez appris en regardant les Rolling
Stones
travailler?
J'ai appris que finalement, ils étaient aussi mauvais que nous.
Ça vous a décomplexé de les regarder?
C'est vrai, tout à fait.
Ouais. Ça a démythifié?
Bah oui, ils répétaient, ils galéraient. Et puis au bout de quelques jours de répétition sur un morceau, ça allait mieux. Comme nous. Mais en mieux.
Alors, c'est vrai que moi, je me souviens, ado, j'écoutais... Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Et surtout... Quand même, vous rendez compte, Louis Bertignac, que vous êtes responsable de combien de mariages, combien d'enfants, combien de gueules de bois?
Ouais.
À chaque fête, quand l'ambiance retombe, on passe un vieux téléphone et la fête repart.
Ouais, je suis responsable aussi de rencontres entre les gens.
Il y a des gens qui viennent vous dire on s'est rencontrés sur
vos concerts.
À ton concert, ouais. Bien sûr. Ouais.
Ouais, ah ouais. Ça vous fait plaisir.
Et on a appelé notre enfant Louis.
Ah, je croyais téléphone. Ça aurait été.
Alors vous avez des regrets de cette époque parce que vous étiez en couple avec Corinne Marienneau et vous dites qu'il y avait plein de femmes qui vous attendaient et vous n'avez pas pu en profiter.
C'est vrai, mais je me suis rattrapé.
Louis Bertignac, on a le plaisir de vous recevoir ce midi à l'occasion de la sortie de votre nouvel album Origine, album dans lequel vous reprenez en français à votre sauce de grands standards de la chanson anglo-saxonne. C'était important pour vous cet album?
Bah, il fallait oser surtout.
Parce que vous avez dû demander l'autorisation à chaque fois?
Oui, aussi, ouais.
Ça a été compliqué, j'imagine.
C'est pas moi qui ai demandé, c'est ma maison de disques qui s'est dévouée. Ça a été long, mais de temps en temps, j'avais
une bonne surprise.
Ouais, un SMS surprise. Ça y est, Gigi Kale est d'accord.
Ouais.
Super. Il est mort depuis 5 ans, mais
il est d'accord.
Hendrix n'a pas été d'accord.
Ah oui.
Hendrix m'a dit, pourtant je l'aime, hein, mais il m'a dit, tu peux le faire en anglais, mais pas en français.
Ah. Parce que vous avez donc traduit, et alors vous êtes permis quelques libertés, comme par exemple cocaïne, oui, qui est devenue coquine.
Oui, et qui parle, bon c'est un peu plus large du coup, ça parle pas que de la cocaïne, auquel j'ai jamais touché d'ailleurs, pour un drogué c'est rare. Hein.
Mais vous voulez que je vous félicite.
Bravo.
Ah non, mais moi je ne prenais que de l'héroïne. Ouais, ouais. Vous avez dit, oui, je prenais vrai que de l'héroïne à dose homéopathique. Mais enfin, c'était quand même, c'est quand même une drogue dure.
Oui, c'est vrai.
Ça fait combien de temps que vous ne vous droguez plus, Louis Bertignac?
J'ai arrêté à 30 ans. Ça fait 34 ans.
Ah, ouais. Ah oui, d'accord. C'est l'amour qui vous a aidé ou c'est un...
Pas du tout.
Non, comme ça.
Ouais, ouais. Comme
c'est
ça.
Les prix, c'était trop cher.
Ça a augmenté sans arrêt.
C'est ça, ouais.
Ça a été quoi le déclic où vous êtes dit, allez, maintenant j'arrête?
Je crois, il y a eu deux, trois déclics.
Vous avez perdu beaucoup d'amis aussi?
Aussi, bien sûr. Non, mais une fois, j'ai eu un accident de voiture. En fait, c'est un type qui m'a grillé la priorité. Et il m'a fait rentrer dans une pharmacie. Heureusement, c'était la nuit. Il n'y avait personne dans la pharmacie, mais je me suis retrouvé à fond dans la pharmacie, avec des brosses à dents explosées tout autour de moi. C'était dingue. Et donc, là, j'appelle la police. Et juste à ce moment-là, je me dis, bon, il me reste une petite ligne, il ne faut pas qu'il la trouve. J'ouvre le paquet et je me fais la ligne.
Non.
Et j'étais tellement dégoûté de tout ça, d'agir comme ça, que je me suis dit, bon, il y en a marre de ça.
Vous avez dit, c'est un signe, je suis rentré dans une pharmacie, j'arrête. Voilà.
C'est possible, un truc comme
on
ça.
On écoute un extrait de la chanson donc Cocaïne, qui est devenue Coquine.
Tu m'as traîné par terre, foutu ma vie en l'air, coquine. Tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, coquine.
Merci.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël Quiroga, Léa
Mando, bouge pas.
Christine Béroux et notre invité Louis Bertignac venu nous parler de son album Origine.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. 11h, 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1. Aujourd'hui, nous recevons une légende du rock français, le roi du riff, le prince du kiff, le Keith Richards hexagonal, un guitariste, un chanteur, un producteur. Ce midi, nous avons pris le privilège de recevoir monsieur Louis Bertignac.
Merci.
Bonjour Louis Bertignac.
Bonjour.
Louis Bertignac, comment ne pas parler avec vous du seul et unique groupe de rock français de ces 40 dernières années, Téléphone, qui hélas a raccroché. Bon, il y a aussi les Forbans, ça a duré moins longtemps.
Et Indochine.
Oh, il y a beaucoup de groupes.
C'est sympa pour Trust aussi.
Ouais. Bah ouais,
et après, il n'y a quand même jamais eu en France un seul groupe de... Enfin, je veux dire quand même, c'était un des plus grands groupes de rock français, Téléphone.
Qu'est-ce que je peux dire? Ouais.
Modestement, oui.
Je vais avoir l'air d'un frimeur si je dis oui. Bon. Non, il y en a eu beaucoup des groupes. Il y en a eu beaucoup avec des bons musiciens, avec des mauvais, de tout.
Le rock, c'est une musique de contestation. En France, on aime bien contester. D'ailleurs, on le voit en ce moment. Vous n'avez pas envie de produire un nouveau groupe à la mode, les Yellow Gillettes?
Yeah.
Vous connaissez cette phrase de John Lennon qui, quand on lui demandait ce qu'il pensait du rock français, le comparait au vin anglais?
Ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous lui
répondez? Il n'y a toujours pas de vin en Angleterre. Alors que du rock, il y en a ici.
Quand vous enregistrez avec Téléphone, il y avait les Rolling Stones qui étaient dans les studios et vous avez obtenu autorisation de rester toute la nuit pour les regarder.
Mais toutes les nuits.
Toutes les nuits.
C'était un bonheur, ouais. J'ai beaucoup appris.
Qu'est-ce que vous avez appris en regardant les Rolling Stones travailler?
J'ai appris que finalement, ils étaient aussi mauvais que nous.
Ça vous a décomplexé de les regarder?
C'est vrai, tout à fait.
Ouais. Ça a démythifié?
Bah oui, ils répétaient, ils galéraient. Et puis au bout de quelques jours de répétition sur un morceau, ça allait mieux. Comme nous. Mais en mieux.
Alors, c'est vrai que moi, je me souviens, ado, j'écoutais...
Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde.
Et surtout... Quand même, vous vous rendez compte, Louis Bertignac, vous êtes responsable de combien de mariages, combien d'enfants, combien de gueules de bois? À chaque fête, quand l'ambiance retombe, on passe un vieux téléphone et la fête repart.
Je suis responsable aussi de rencontres entre les gens.
Il y a des gens qui viennent vous dire on s'est rencontrés sur
vos concerts.
À ton concert, bien sûr.
Ça vous fait plaisir.
Et on a appelé notre enfant Louis.
Croyais téléphone.
Alors vous avez des regrets de cette époque parce que vous étiez en couple avec Corinne Marienno et vous dites qu'il y avait plein de femmes qui vous attendaient et vous n'avez pas pu en profiter.
C'est vrai, mais je me suis rattrapé.
Louis Bertignac, on a le plaisir de vous recevoir ce midi à l'occasion de la sortie de votre nouvel album Origine, album dans lequel vous reprenez en français à votre sauce de grands standards de la chanson anglo-saxonne. C'était important pour vous cet album?
Il fallait oser surtout.
Parce que vous avez dû demander l'autorisation à chaque fois?
Oui, aussi, ouais.
Ça a été compliqué, j'imagine.
C'est pas moi qui ai demandé, c'est ma maison de disques qui s'est dévouée. Ça a été long, mais de temps en temps, j'avais
une bonne surprise.
Un SMS surprise. Ça y est, Gigi Kell est d'accord. Ouais. Super. Il est mort depuis 5 ans, mais
il est d'accord.
Hendrix n'a pas été d'accord.
Ah ouais.
Hendrix m'a dit, pourtant je l'aime, mais il m'a dit, tu peux le faire en anglais, mais pas en français.
Ah. Parce que vous avez donc traduit, et alors vous êtes permis quelques libertés, comme par exemple cocaïne, qui est devenue coquine.
Oui. Et qui parle, c'est un peu plus large du coup, ça parle pas que de la cocaïne, auquel j'ai jamais touché d'ailleurs, pour un drogué c'est rare.
Mais vous voulez que je vous félicite?
Bravo.
Ah non, mais moi je ne prenais que de l'héroïne, vous avez dit, je prenais que de l'héroïne à dose homéopathique, mais enfin c'est quand même une drogue dure.
Oui, c'est vrai.
Ça fait combien de temps que vous ne vous droguez plus, Louis Bertignac?
J'ai arrêté à 30 ans, ça fait 34 ans.
Ah oui, d'accord. C'est l'amour qui vous a aidé ou c'est un...
Pas du tout.
Non, comme ça.
Comme ça.
Les prix, c'était trop cher.
Ça a augmenté sans arrêt.
C'est ça, ouais.
Ça a été quoi le déclic où vous vous êtes dit, allez, maintenant j'arrête?
Je crois, il y a eu 2-3 déclics.
Vous avez perdu beaucoup d'amis aussi?
Aussi, bien sûr. Non, mais une fois, j'ai eu un accident de voiture. En fait, c'est un type qui m'a grillé la priorité. Et il m'a fait rentrer dans une pharmacie. Heureusement, c'était la nuit. Il n'y avait personne dans la pharmacie, mais je me suis retrouvé à fond dans la pharmacie, avec des brosses à dents explosées tout autour de moi. C'était dingue. Et donc, là, j'appelle la police. Et juste à ce moment-là, je me dis, bon, il me reste une petite ligne, il ne faut pas qu'il la trouve. J'ouvre le paquet et je me fais la ligne.
Non.
Et j'étais tellement dégoûté de tout ça, d'agir comme ça, que je me suis dit, bon, il y en a marre de ça.
Vous avez dit, c'est un signe, je suis rentré dans une pharmacie, j'arrête. Voilà.
C'est possible, un truc comme
On écoute un extrait de la chanson donc Cocaïne, qui est devenue Coquine. Tu m'as traîné par terre, foutu ma vie en l'air, coquine. Tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, coquine.
Merci.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël Quiroga-Alea.
On ne bouge pas.
Christine Béroux et notre invité Louis Bertignac venu nous parler de son album Origine.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi avec Mickaël Quiroga-Alea Londo, Christine Béroux et notre invité Louis Bertignac venu nous parler de son album Origine. Louis Bertignac, vous êtes considéré comme le plus grand guitariste français de rock.
Alors là, je veux dire, c'est des grosses conneries, ça.
Ah bon?
Ouais.
Alors?
Il ne faut pas dire des trucs comme ça, parce qu'après, il y en a qui vont me retomber dessus. Il se prétend être le plus grand guitariste de France.
Ah, des plus grands guitaristes.
Non, on vous considère comme l'un, c'est-à-dire que ce n'est pas...
Si c'est nous qui le disons,
alors je ne dis pas. Voilà. Okay, je
mais
dis
nous,
rien.
On le dit.
Je pense que ce n'est pas vrai.
Qui est le plus grand guitariste français de rock, Louis Bertignac?
Personne de rock, à part moi.
C'est qui alors?
Paul Person, non? Quelqu'un comme
J'aime beaucoup Paul, ouais. C'est blues.
C'est surtout. Plus blues, ouais, c'est vrai.
Il y a Nono Krief qui est très bon, et il y en a pas mal.
Alors, Louis Bertignac, votre rencontre avec Jean-Louis Aubert et Colin Kay est complètement fortuite. C'est un copain qui vous l'a présenté, il était au lycée Carnot comme
exactement,
vous.
Exactement, voilà.
Et qui a dit, je connais un mec top.
Ouais, et moi aussi, il me parlait de lui. Et puis, on s'est rencontrés un jour, on est parti jouer.
Vous avez passé 6 heures ensemble le premier jour. Il y avait une connivence incroyable.
Et puis après, on s'est plus quittés. On a passé des mois, des années ensemble. Richard, je l'ai rencontré dans un concert de... Il accompagnait un type qui s'appelle Vince Taylor. Ouais, on est devenus potes. Corinne, pareil, c'était une autre histoire. C'était plus une histoire de drogue, d'ailleurs.
C'était une histoire d'amour aussi, quand même.
Après, mais la première fois, c'est vrai que c'est un copain qui me... Un bon copain qui... On voulait fumer un truc. Et il me dit, j'ai un plan, si je connais des filles, donc on va voir des filles. Et effectivement, j'arrive dans l'appartement, je craque, les deux filles sont très mignonnes. Mais elles n'avaient pas de cheat, elles n'avaient rien. Donc... Mais quand même, j'avais flashé et je leur dis, voilà, si vous voulez, on répète. Vous êtes danseuse, ah, super. Moi, je répète, si vous voulez, vous venez, on vous fera danser, on jouera de la musique. Et puis Corinne est venue, et puis il y a eu une longue histoire ensemble. Mais pas tout de suite. Hein. Elle a mis un an et demi avant de bien vouloir sortir avec moi.
Et ça a duré longtemps, alors, après ?
Ça a duré 2-3 ans. C'était difficile.
Elle doit être simple, elle doit être contente de le savoir des années
J'espère
plus tard.
J'espère qu'elle n'écoute pas.
Alors, Louis Bertignac, vous avez reformé Téléphone sous le nom des Insus, pourquoi pas les smartphones ?
C'était une très bonne idée, mais on l'a eu trop tard. On
l'a
eu
après. Vrai, vous pensez l'appeler les smartphones ?
Mais oui, c'était une bonne idée, ouais. Mais on n'y a pas pensé sur le moment.
Alors, après Téléphone, vous avez joué dans un groupe Bertignac et les Visiteurs qui était avec Corinne Marienneau. Et là, ça a été un succès aussi, ces idées-là ?
Ouais, cette chanson a bien marché. Le reste, pas tellement. Mais cette chanson a très bien marché. Mais je la trouve jolie, c'est vrai.
Alors, dites que vous n'avez pas repris Corinne Marienneau dans Les Insus parce qu'il n'y avait plus d'amour, en fait, c'est ça ? Qu'un groupe, c'est de l'amour ?
Il y a beaucoup de ça, mais c'est surtout c'était des engueulades continuelles entre Corinne et Jean-Louis Aubert, le chanteur.
Qui sont quand même deux fortes personnalités aussi.
Oui, c'est ça. Et qui sont totalement opposés. Oui,
c'est ça, le chien et le chat, quoi. C'est
voilà, vraiment... et donc c'était, même pendant Téléphone, c'était très souvent des engueulades. C'était un enfer.
Ils n'ont jamais réussi à s'entendre bien, en fait.
Aussi, à un moment, quand on s'est quitté avec Corinne, elle a été un peu avec Jean-Louis, ça allait mieux.
Non, c'est vrai.
Ouais, ouais.
Ah, c'est drôle. Et après, ils se sont redétestés.
Après,
en fait.
Pire qu'avant.
Ah oui, c'est ça.
Et ça vous a pas gêné, ça ?
Qu'ils soient ensemble ou qu'ils se détestent ?
Non, qu'ils se soient mis ensemble après.
Bien sûr, ça m'a gêné, ouais.
Mais de la part de Jean-Louis, c'est pas cool. Pardon, je veux pas, mais...
Bah après, s'ils sont plus ensemble, elle fait ce qu'elle veut, quand même.
Bah oui, quand même.
Bah enfin, tu pourrais sortir avec l'ex d'un de tes meilleurs amis.
Ah, sans pitié, elle. Sans pitié.
Je sais pas, ça s'est jamais présenté, je sais pas.
Oh, oh là là,
mais... je sais pas.
Non, non, mais préviens-nous, parce qu'on ne présente plus personne.
Non, mais Jean-Louis Aubert, il est très sexy en même temps, ça, je la comprends.
Bien sûr. Pour être honnête, Jean-Louis m'a demandé l'autorisation.
Ah, d'accord. Ah.
Il m'a dit, il se passe quelque chose... Corinne, non.
Non.
Il m'a dit, il se passe quelque chose avec Corinne, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, d'accord. Je lui ai dit, bon, ben, vas-y.
Et vous auriez aimé que ça se passe mieux, qu'elle soit là pour la recomposition du groupe ou...
Honnêtement, oui, mais...
C'était pas possible humainement, en fait, c'est
mais
ça ?
Dès le premier concert de Téléphone, il y avait des problèmes, on s'est engueulés. Le premier concert de Téléphone, le fameux au Centre Américain, ça s'est fini avec un autre bassiste en rappel, parce qu'elle nous avait trouvé trop nuls. Elle ne voulait plus remonter sur scène avec nous. Donc, ce n'était pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Je pense que la tournée des Insus aurait duré une journée et demie.
Ah ouais. Et là, c'était un plaisir de vous retrouver.
Ah, c'était super, vraiment. Je me suis rendu compte que Jean-Louis m'aimait beaucoup. Et il s'est rendu compte que je l'aimais beaucoup. Alors qu'on s'était...
Vous étiez perdu de vue.
Voilà. Et,
Là, le lien était très fort, en fait. Le lien est revenu comme si vous étiez quitté la veille.
Même mieux encore, parce qu'il n'y avait pas Corinne entre nous.
Ah, cette Corinne !
Ah, les femmes dans le rock'n'roll. Il m'avait dit ça, Jagger. Il m'avait dit, mais pourquoi ? Une femme, ça ne va jamais le faire.
C'est très sexiste de dire ça.
Ah ouais, c'est vrai.
Pourtant, vous avez produit ensuite beaucoup d'albums de femmes, oui. Louis Bertignac.
Et de femmes de Jagger aussi.
Carla Bruni.
Oui.
C'est tout ? Qui d'autre de femmes de Jagger ?
Non, c'est tout.
C'est tout. Ça a été une surprise, le succès de cet album de Carla Bruni.
Oui.
Quelqu'un m'a dit, parce que vous n'aviez jamais fait ça, de produire un album qui marchait à ce point-là.
Oh non, bien sûr. J'ai jamais eu un album qui a marché à ce point-là, d'ailleurs.
Ouais.
C'était sympa. On était potes depuis longtemps. Elle m'invite à dîner, elle me fait écouter les trucs. Je lui dis, la prod est pourrie. Les chansons sont bien, la prod est pourrie. Elle me dit, ah, c'est bien ce que je pensais. Mais alors, prends un bon producteur. Alors, je lui donne des noms de mecs avec qui j'ai bossé, qui sont excellents. Et puis, je fais un arrangement sur une de ses chansons pour voir, comme ça, parce que ça me plaisait. Je lui dis, tu vois, on peut faire un truc comme ça. C'est vachement mieux que ce que tu me proposes, là. Et elle me dit, oui, mais c'est exactement ce que je veux. Il faut que tu le fasses. Et et j'ai dit non pendant 2 semaines. Et puis, elle a réussi à me convaincre.
Et 2 millions d'exemplaires.
Et 2 millions. Ça, je ne m'attendais pas à ça, sinon j'aurais dit oui tout de suite.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Louis Bertignac, qui nous parlait de son album Origine, où il reprend des standards en fait de la chanson anglo-saxonne traduit en français, c'est
ouais,
ça
ouais, c'est ça. Des groupes que j'écoutais quand j'avais 15-16 ans pour la plupart.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Christine Bérou et notre invité Louis Bertignac venu nous parler de son album Origine. Donc là, c'est vos chansons préférées que vous avez choisies ?
Non, pas forcément, mais c'est mes groupes préférés, mes artistes préférés. Et là-dedans, j'ai choisi les chansons qui me collaient le plus, c'est-à-dire sur lesquelles je pensais pouvoir réécrire le texte, sur lesquels je pensais pouvoir jouer de la batterie, parce que j'ai joué sur tous les morceaux, ouais. Mais il y en avait certaines qui n'étaient pas possibles pour mon niveau de batterie, donc j'ai quand même limité.
Laquelle vous aimeriez qu'on écoute, là ?
Ah ben, une qui est pas mal d'actualité, on peut faire Ma Gueule.
Ma Gueule, ben on écoute. Pourquoi vous dites qu'elle est pas mal d'actualité ?
Parce qu'elle parle de gens qui crient révolution et de gens qui ont l'impression qu'on s'est foutu de leur gueule quand on leur a...
Ça pourrait être l'hymne des Gilets jaunes.
Ça pourrait presque, ouais. D'ailleurs, je vais leur proposer.
Vous êtes pourtant, alors c'est pas un paradoxe, vous êtes ami avec Nicolas Sarkozy, Louis Bertignac ?
Bah, je suis ami, je n'ai pas son numéro, si vous voulez, quand même. Mais comme je suis ami avec Carla, j'ai été amené à le rencontrer 2-3 fois.
Ça paraît une rencontre incongrue, Louis Bertignac, Nicolas Sarkozy.
Oui, bien sûr. Mais on s'est retrouvé sur un truc, c'est qu'il aime bien le PSG, sur deux trucs. Et il aime bien Johnny Hallyday. Ça, donc je lançais n'importe quel morceau de Johnny, il enquillait tout de suite.
Et vous dites aussi, un jour il vous a consolé parce que vous étiez au fond du trou et il vous a dit...
Il m'a dit, ouais c'est vrai.
Au fond, vous avez une rupture amoureuse, c'est
ouais,
ça
terrible.
Et vous étiez au...
Ah ouais, c'était terrible, je perdais ma femme et mes filles en même temps.
Et là ça allait pas du tout et Sarkozy vous a consolé.
Ouais, il m'a dit, écoute, j'étais au fond du trou, je me suis fait larguer en plein milieu des élections. Elle est partie avec un autre. Et j'étais vraiment mal. Et puis, tu vois, 6 mois après, je suis avec la plus belle femme du monde.
Ah, oh, c'est mignon.
Et vous aussi, vous avez rencontré une femme avec qui ça se passe merveilleusement bien.
Ouais, c'est vrai.
Donc, il ne faut jamais désespérer.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Je vous présente Mickaël Quiroga, Louis Bertignac.
Salut.
Salut, Louis. Donc, moi, je suis ravi. Hein. C'est un honneur de rencontrer un des piliers du rock français. Donc, chanteur légendaire du groupe Téléphone, on l'a dit. Alors, sachez qu'on parlait beaucoup de vous dans les cours d'école, de vous quatre et de vos petites histoires. On a su que vous aviez une histoire d'amour avec Corinne Marienneau. On avait cru apprendre qu'elle vous avait quitté pour Jean-Louis Aubert. Puis pour le batteur du groupe, Richard Kolinka, je crois.
Non.
Non.
Non, non.
Ah, ça
elle m'a
pas
quitté
dire.
Pour Jean-Louis. Non, elle m'a quitté parce qu'elle était... Je l'ai quitté, on peut le dire, ouais.
D'accord,
je me suis sauvé.
J'ai remarqué un truc, c'est que vous êtes un rocker comme Johnny, que vous avez 2 enfants d'un précédent mariage comme Johnny, que vous avez une compagne bien plus jeune que vous comme Johnny, et elle s'appelle
Laetitia. Laetitia.
Je voulais vous demander, vos testaments, c'est réglé ou...
Non, pas du tout.
D'accord, parce qu'il y a une justice prudente. Et votre Laetitia, elle est en bon terme avec les fans, tout va bien. Hein.
La mienne, oui, ça va.
Ouais, bah, ça va.
Vois, elle est très, c'est plutôt elle qui est en bon terme avec les fans, c'est-à-dire qu'elle s'occupe souvent de.
D'accord, tant mieux, parce que Laetitia Hallyday, elle, par exemple, les fans de Johnny la détestent. Et moi, je sais même pas
tous,
pourquoi.
Il
y en a plein qui disent, ouais, faut qu'elle rende l'argent. Moi, j'ai envie de leur dire, déjà, c'est pas le vôtre, hein, de quoi je me mêle. Vous avez acheté un disque, vous avez pas fait un don, hein. Johnny, c'est un artiste, pas une ONG. Et puis quand vous vous êtes embrouillé avec le cousin Adrien pour l'héritage du terrain du grand-père, Johnny, il n'a pas débarqué pour entraîter un des deux de voleurs. Voilà. Mais enfin, bref. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour vous. Louis Bertignac, votre nouvel album, c'est Origine, dans lequel vous avez écrit les versions françaises des chansons qui vous ont marqué. On y retrouve celles qui sont à l'origine de votre vocation. Je pense qu'on a tous ici une chanson ou deux dans la tête qu'on pourrait reprendre et qui serait à l'origine de notre vocation. Je sais pas, Christine Bérou, par exemple, dont l'énergie et la jeunesse sont irrémédiablement aspirées par une progéniture en bas âge qui nécessite toute son attention, n'a plus en tête que la chanson de la grande Ginette Reynaud.
Fatiguée.
Ouais, bien vu.
Je suis fatiguée.
Eh ouais, Léa Landau, qui est toujours en galère, qui cherche un homme comme un noyé cherche de l'air, pourrait reprendre ça.
Parlez-moi de lui. Parlez-moi de toi.
Eh ouais. Vous reprenez en français les chansons de votre adolescence, les Beatles, les Stones, George Harrison, entre autres. Vous auriez même pu reprendre celle-là.
Will you still need me?
Ah, ah, ouais.
Will you still feed me?
Eh oui, forcément.
Oui. Eh oui.
Et c'est votre âge en plus.
Ouais.
Eh ben ouais. Vous avez même... Alors vous avez quand même une petite préférence, il faut le dire, pour le poète maudit, Bob Dylan. Hein, je trouve il y a trois reprises, je crois, sur l'album.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, bien notamment sûr. Forever Young, hein, toujours jeune, comme le public de cette émission. Louis Bertignac, vous avez pris en âge et en expérience, mais vous êtes toujours jeune. Merci de votre patience.
Merci beaucoup.
Europe 1. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la dernière partie de cette émission avec Christine Béroux, Michael Quiroga, Léa Londo et notre invité Louis Bertignac, venu nous parler de son album le plus personnel, Origine, sorti depuis le 16 novembre.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Avec Michael Quiroga, Léa Londo, oui, Christine Béroux et notre invité Louis Bertignac, venu nous parler de son dernier album Origine. Ça a été important pour vous, Louis Bertignac, d'être jury dans The Voice?
Important, non, c'était différent, on va dire.
Ça vous a fait connaître d'une nouvelle génération aussi?
Oui, peut-être, mais...
On vous en parle encore dans la rue?
Ça arrive, ouais. On ouais. dit, mais vous manquez à The Voice.
Ouais, c'est vrai.
Mais vous étiez super humain, je me rappelle, vous aviez du mal à prendre vos décisions parce que vous écoutiez tout le monde derrière vous, dans le public.
Oui, ben bah oui, mais c'est de toute façon, les décisions, c'est-à-dire de virer qui
ouais.
C'était ça le truc.
Ouais.
J'ai pas aimé ce moment, j'ai pas aimé ces moments. Autant j'adore le truc à l'aveugle, quand ouais. on se retourne, ouais. une fois qu'on a dit et qu'on se bat pour l'avoir, ok. Mais après, les virer un après l'autre, c'est ça notre job. C'est de virer tous les gens qu'on a choisis. Un après l'autre, pour regarder le meilleur, mais en fait, on devient pote avec eux, pas
c'est
trop,
compliqué.
Et c'est très difficile.
Et Louane vous a choisi comme coach?
Ouais.
Vous êtes fier de son parcours?
Bien sûr, ouais. Mais j'ai tout de suite senti que...
Ouais, vous avez eu beaucoup de flair, hein.
Ouais, et puis, ouais, je la voulais
absolument.
Parce
qu'elle avait une voix timide, etc.
Oui, mais j'adore ce genre
ouais.
de voix.
Ouais, bah ouais, c'est le rapport ouais. à Carla Bruni, toutes ces femmes.
Voilà, ouais. voilà, c'est ça.
Léa Londo a des questions à vous poser, Louis Bertignac.
Oui, Louis Bertignac. Alors évidemment, dès qu'on dit téléphone, on pense essentiellement à vous et à Jean-Louis Aubert. Je suis donc allée le voir pour qu'il me donne des infos inédites sur vous et surtout sur la fin de téléphone. Bonjour Jean-Louis Aubert. Alors vous le trouvez comment, Louis Bertignac, depuis la fin de téléphone?
Épanoui. Bon, bah, il y a encore du boulot.
Bon, et pourquoi vous vous êtes séparés?
Il n'est jamais venu en studio.
Ah ouais, non, là je comprends, s'il n'est jamais venu en studio, il était du genre à pas bosser quoi en fait. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit pour mettre fin au groupe téléphone?
C'est fini.
Ah oui, c'est tout, vous lui avez dit oui. C'est fini et vous êtes parti?
Je pense que je l'ai quitté vers 3h du matin.
Ok, ok, non mais je voulais pas rentrer dans les détails Jean-Louis Aubert, je pense que c'est un sujet sensible pour vous deux.
Non, 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 je vais vous raconter la suite.
Ah ok, donc vous l'avez quitté, triste j'imagine, à 3h du matin et...
Et je me suis réveillé dans les bras d'un... SDF Black dans le 13e vers 5h du matin.
Ah oui, carrément. Et vous avez fait quoi, Jean-Louis Aubert?
Je me suis laissé faire.
Ah bon? Mais pourquoi?
Je suis assez gay la plupart du temps.
Donc vous êtes sûr que vous n'aviez pas pris un truc pas très légal ce soir-là? Non, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, à l'époque, les rockers, bah, ça carburait aux substances illicites. Mais il paraît que Louis Bertignac était contre lui.
Je ne l'ai pas écouté de nombreuses fois, je dois l'avouer.
Ok, scoop. Et sans vouloir être indiscrète, Jean-Louis Aubert, cette substance illicite, vous l'aviez trouvée où?
Au bureau de tabac. En bas de chez moi.
Il a quand même l'air beaucoup plus sage que vous, Louis Bertignac.
Il est aussi triste qu'un piano noir qui joue pas.
Mais bien sûr. Ah, bien sûr. Alors que vous, évidemment, vous êtes...
Heureux et fier.
Oui, bah oui. Mais enfin, que représente Louis Bertignac pour vous, Jean-Louis Aubert?
C'est comme un ami, même s'il ne l'est pas encore.
Ok.
Merde, c'est pour quand alors?
Donc en fait, depuis tout à l'heure, vous vous moquez de moi. En vrai, Jean-Louis Aubert, vous le kiffez, Louis Bertignac?
Oui, moi je le trouve très lumineux. C'est quelqu'un, en le connaissant, qui met l'amour à un niveau...
C'est à ça à quoi je m'attendais. Et tant qu'on est dans l'amour et dans le partage, Jean-Louis Aubert, avant qu'on se quitte, un petit mot pour Anne Romanoff?
Bisous à tes enfants.
Voilà. Merci Jean-Louis Aubert.
C'est vraiment lui en plus.
C'est vraiment les sons que j'ai récupérés partout pour raconter cette histoire.
Pas facile.
Ouais. Merci.
Beau travail.
Merci.
Louis Bertignac, ça se reformera pas téléphone ou il n'y a pas d'album prévu, même les insus, il n'y a pas...
Pas d'album prévu en tout cas. Il n'y a pas de tournée prévue non plus.
Vous avez envie?
Mais voilà, j'en sais rien. Oui, c'était sympa cette tournée. C'était vraiment chaleureux. C'était magique. Je ne parle pas de...
Il y avait des gens de tous les âges, il paraît en
oui,
plus.
Oui, ça c'était incroyable. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Il y en a déjà dans nos concerts, dans mes concerts, il y en a toujours, je reçois des mails qui me disent « t'es le seul sujet sur lequel je suis d'accord avec mon fils ». C'est sympa.
Vous savez que mi-décembre, tous les téléphones fixes vont disparaître, il n'y en aura plus. Et bah, on espère que ce ne sera pas pareil pour le groupe téléphone.
On a disparu 30 ans et on est revenu, donc allez savoir.
On ne va pas encore attendre 30 ans pour vous reformiez.
Je ne sais pas dans quel état on se reformera alors.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Avant de se quitter, Louis Bertignac, je vous propose de participer à l'histoire de la semaine. Le principe, le lundi, on commence une histoire et nos invités de la semaine la complètent les uns après les autres jusqu'au vendredi. À chaque fois, il y a un mot obligatoire à tirer au sort dans ce chapeau.
Guitare.
Guitare. Donc il faut que vous commenciez une histoire avec le mot guitare et les invités de la semaine la poursuivront.
J'ai trouvé un jour, moi qui n'ai rien à voir avec la musique, j'ai trouvé une guitare dans une poubelle.
Très bien. Merci Louis Bertignac d'être passé nous voir. On rappelle votre album Origine, donc des grands standards de la chanson anglo-saxonne qui vous tiennent à cœur, repris en français et arrangé par vous, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Est-ce qu'il va y avoir un concert avec cet album?
Bien sûr.
Oui, il y a des dates de prévues?
Non, pas encore.
Pas encore, mais ce sera à partir de...
Mars-avril.
Mars-avril 2019.
Voilà.
Et bien on regardera ça avec intérêt. Merci beaucoup Louis Bertignac.
Merci beaucoup.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin et nous on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.